le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, Notre-Dame reste très fragile. Trois sujets d'inquiétude pour les pompiers, une quarantaine d'heures après le déclenchement de l'incendie, des pignons abîmés sur la cathédrale, des risques encore de reprise de feu et des questions autour de l'échafaudage. Le point avec Thibault Lefèvre et l'invité du journal de 13h, le porte-parole des pompiers de Paris. Il y a quelques minutes, hommage du Premier ministre. Les pompiers ont sauvé Notre-Dame et ses trésors au péril de leur vie. Ils sont des héros. Conseil des ministres consacré à la cathédrale ce matin. Un concours international d'architecture pour la reconstruction de la flèche sera organisé. Un portail est en place pour centraliser et sécuriser les dons pour la reconstruction. Quatre organismes chargés de collecter l'argent. Une controverse monte encore à bas bruit. Sur le thème, on trouve plus facilement de l'argent pour reconstruire Notre-Dame que pour les fins de mois difficiles. Nous allons à l'Elysée dans un instant. Alors reconstruire en 5 ans, comme le veut Emmanuel Macron, est-ce possible et comment ? Reconstruire à l'identique ou pas. De nouveaux éléments en haut au débat. Vous entendrez l'architecte Jean-Michel Villemotte. L'exemple de la cathédrale de Metz, rebâtie après un incendie au 19e siècle. Et puis parole à un bouquiniste des quais de Paris. Son paysage n'est plus le même depuis lundi soir. Dans ce journal encore, les associations écologistes vont-elles radicaliser leur action ? Appel à la désobéissance civile pour le climat à partir de vendredi. En Angleterre, les militants bloquent en partie la circulation à Londres. Quand les dealers de shit d'un quartier de Grenoble font du marketing. C'est éloquent, vous verrez. Et puis les élections en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, quelle est la tendance ?
Eh bien on en avait parlé, c'est le début de la grande douceur qui va nous concerner plusieurs jours. On attend 15 à 23 degrés en général cet après-midi. Dans le sud-ouest, il fera même 19 à 26 degrés, voire 27 degrés. Côté ciel, le soleil et belles éclaircies domineront pour cet après-midi. Le ciel sera un peu voilé sur l'ouest. Temps un peu plus variable sur le Bas-Languedoc et les Alpes du Sud. Et puis les nuages resteront prédominants sur le Nord-Pas-de-Calais.
À tout à l'heure pour les détails. Et dans ce journal, il y aura aussi, comme chaque mercredi, le conseil cinéma de la semaine. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
C'est sans doute la première fois de l'histoire qu'un conseil des ministres est intégralement consacré à une cathédrale. Moins de 2 jours après l'incendie de Notre-Dame, les ministres réunis à son chevet au palais de l'Élysée ce matin. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Et là aussi, c'est exceptionnel. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui vient de rendre compte des discussions. Alors que le milliard de promesses de dons pour reconstruire la cathédrale sera sans doute franchi dans la journée, eh bien, il faut encadrer cet élan de générosité.
Ah oui Bruno, effectivement il faut le répéter, un conseil des ministres exclusivement réservé à un édifice, à une cathédrale, c'est assez rare, a fortiori en des temps de crise. Mais l'incendie de Notre-Dame, a dit Édouard Philippe, ce n'est pas un contretemps, c'est une catastrophe nationale. Le Premier ministre a annoncé pour la semaine prochaine un projet de loi qui définira le cadre de la future souscription.
Ce projet de loi précisera en particulier les garanties de transparence et de bonne gestion que nous apporterons dans la gestion des dons. Une responsabilité que nous souhaitons confier à un comité que présideront le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture des deux assemblées. Chaque euro versé pour la reconstruction de Notre-Dame servira à cela et pas à autre chose.
Parlons argent, effectivement. Une polémique commence à enfler sur les dons qui affluent, alors même que l'État parfois a bien du mal à lancer des chantiers pour lutter, par exemple, contre la pauvreté. Ça a été balayé par le Premier ministre.
Nous devons nous réjouir que, au-delà de l'émotion, un très grand nombre de Français expriment le souhait de participer à cet effort de reconstruction. J'ai indiqué les conditions fiscales dans lesquelles ces dons allaient être traités. Il ne vous aura pas échappé que seuls les dons inférieurs à 1 000 euros bénéficieront d'un régime fiscal spécifique. Pour tout ce qui est au-delà de 1 000 euros, c'est le régime de droit commun qui s'appliquera.
Régime de droit commun, depuis 2003, c'est 60% donc pour les entreprises de déduction. Est-ce que ce sera à la charge du contribuable français ? Oui, mais ce ne sera pas le cas de François Pinault qui a promis 100 millions d'euros, mais surtout de ne pas faire valoir cet avantage fiscal.
Merci Cyril Graziani. Et à propos de cette controverse, on relèvera les propos d'une des figures des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, qui appelle à revenir à la réalité et fustige les grands groupes inertes face à la misère sociale mais mobilisés pour la cathédrale. Je vous rappelle donc que ce dispositif pour encadrer les dons, 4 organismes chargés de collecter les dons, je vous les donne: Fondation Notre-Dame, Fondation du Patrimoine, Fondation de France, Centre des Musées Nationaux et un site internet pour centraliser tout cela. rebâtir Notre-Dame. Rebâtir Notre-Dame. Autre annonce d'Édouard Philippe ce matin, un concours international d'architecture pour reconstruire la flèche.
Avant le 19e siècle, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'avait pas de flèche. C'est Viollet-le-Duc, au 19e, qui a choisi de construire cette flèche que nous avons vue s'écrouler dans la soirée de lundi dernier. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque.
Alors cette cathédrale, moins de deux jours après l'effondrement de la flèche, moins de deux jours après l'incendie, dans quel état est-elle ? Bonjour Gabriel Plus.
Bonjour.
Porte-parole des pompiers de Paris, merci beaucoup de répondre aux questions de France Inter, vous qui êtes très sollicité. Ma première question dans une petite seconde. D'abord, si vous le voulez bien, faisons le point avec Thibault Lefebvre, qui est dans le quartier de la cathédrale. Bonjour Thibault, les dernières informations avec vous. Il y a trois priorités pour les secouristes.
Oui Bruno, trois chantiers. Le premier, ce sont les échafaudages. Une grande armature en acier galvanisé, elle surplombe encore l'immense trou dans ce qui était, il y a moins de 48 heures, la voûte presque millénaire de Notre-Dame. Eh bien, ils n'ont pratiquement pas bougé, mais gênent considérablement le travail des pompiers. Deuxième chantier, la surveillance d'éventuelles reprises de feu. Du plomb fondu a coulé dans des jointures, dans des pierres, dans des statues, et il y a toujours un risque d'incendie. Enfin, troisième chantier, peut-être le plus important, ou en tout cas le plus impressionnant, les pignons qui soutenaient jusqu'à lundi, la voûte, deux grands triangles de pierre situés au-dessus des rosaces des 12e et 13e siècles, eh bien ils ne tiennent plus que sur leur base. Les pompiers tentent en ce moment même avec des experts de consolider certaines parties, d'en démonter d'autres. Elles menacent à tout moment de s'écrouler. Alors par sécurité, des habitations du côté nord de la cathédrale ont été évacuées. Les pompiers craignent notamment un phénomène météorologique soudain. Pour être tout à fait concret, un coup de vent qui pourrait faire basculer les pignons. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, estimait hier à 48 heures le temps de la sécurisation de l'édifice. Et bien selon les pompiers, ce sera sans doute plus long, en tout cas pas avant la fin de la semaine.
Merci Thibault Lefebvre. Et donc avec nous Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Pour parler clair, parce que c'est assez inquiétant ce que vient de nous dire Thibault, que craignez-vous pour la cathédrale, là un peu moins de deux jours après ? Quelle partie peut encore s'effondrer ? Quelle partie est totalement sécurisée ?
Oui, inquiétant, je sais pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que la structure ne menace plus ruine. Pour autant, même si les ogives croisées, même si les tours des beffrois ont été sauvées, même si la chute de la flèche a été dramatique, a causé des dégâts, l'ensemble de la structure est conservé, l'ensemble de ce joyau de notre patrimoine est sauvé. Les choix ont été faits donc correctement par les pompiers de Paris. Donc cette surveillance dont vous parliez, qui concerne bien entendu les points chauds, plus on avance dans le temps, moins il y aura de plein chaud, moins il y aura de risques que survenance d'un autre incendie, qu'une reprise de l'incendie survienne, ça reste important pour nous. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de dispositifs hydrauliques qui sont maintenus et que cette surveillance aussi concerne l'échafaudage, parce que Fort est à parier que le départ de l'incendie se trouvait à proximité de cet échafaudage, l'enquête le dira, mais toujours est-il qu'il s'agit de surveiller cet échafaudage qui a été déformé, qui potentiellement peut tomber, en tout cas il va falloir le retirer. Donc c'est un travail d'expertise avec les architectes de Paris, avec les experts du ministère de la Culture, qui s'établit pour donner des priorités quant au démontage de cet échafaudage, quant à la préservation de ces pignons. Il faut rappeler que les pompiers de Paris, tout en contrôlant ce feu, en arrêtant ce sinistre au droit des deux beffrois, ont aussi limité le jet de leur lance à incendie pour ne pas abîmer les rosaces. Rosaces qui se trouvent au droit des pignons, ces vitraux plus que millénaires, oui. Donc doivent être conservés, et donc il s'agit effectivement, puisqu'ils ont été projetés jusqu'à maintenant, eh bien de les surveiller pour éviter qu'ils ne menacent ruine.
Il y a combien de pompiers encore sur place au moment où on se parle, monsieur ?
Alors il y a une soixantaine de pompiers qui établissent cette surveillance et qui accompagnent les experts pour repérer sur l'ensemble de cette structure les points difficiles et ce qui mérite d'être consolidé en priorisant cette consolidation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'évacuation des œuvres qui méritent d'être évacuées. Et là, il faut souligner aussi que l'ensemble des œuvres, l'ensemble des tableaux qui se trouvent dans les chapelles latérales ne présentent pas de dommages.
Gabriel, plus un petit retour en arrière. Lundi soir, vous en avez déjà dit un mot, ce moment où les flammes commencent à toucher la tour nord et où on se dit, nous, devant notre télévision ou à côté de notre radio, que toute la cathédrale va brûler. Il y a 400 pompiers à ce moment-là. Que se passe-t-il ? Racontez-nous.
Oui, le feu gagne en intensité puisque c'est un volume d'environ 3000 m² complètement ouvert, non recoupé, sous le toit. Le vent de l'est pousse ce feu vers les deux beffrois, vers les deux tours. Et effectivement, là, il y a une prise de risque qui est calculée, il y a une décision collective qui est prise de pouvoir sauver les deux beffrois, et notamment le beffroi nord, parce que les flammes commencent à lécher cette tour, commencent à attaquer la charpente qui soutient les huit cloches qui ont été mises en place lors du 800e anniversaire de cette cathédrale. Vous imaginez que si la charpente soutenant ces cloches avait cédé, les cloches tombant auraient donc fracturé cette voûte et l'ensemble de la structure aurait été déstabilisée, sachant qu'il y avait déjà eu la flèche qui avait crevé cette voûte. Donc on craignait en fait la démolition complète de cette structure. Donc il fallait sauver ces beffrois et donc le risque a été pris d'établir des moyens hydrauliques entre le toit qui brûlait et la tour nord, le beffroi nord. Et donc d'engager les pompiers de Paris qui sont jeunes, qui sont résilients.
Et combien étaient à l'intérieur ?
Alors, ça, c'est la première phase. Oui. Au début du sinistre, on a engagé des équipes par l'intérieur, par les quatre escaliers et par l'extérieur. Quand on a estimé que la chute de la flèche pouvait être arrivée, on a décidé de désengager les équipes de l'intérieur pour les remplacer par un robot, le robot d'extinction. Et ensuite, quand on a décidé de protéger ce beffroi, on les a engagés par les escaliers intérieurs, les escaliers des deux tours, pour engager donc une vingtaine de sapeurs-pompiers pour protéger ce beffroi nord, pour attaquer le feu qui commençait à prendre dans la charpente de ce beffroi et créer un rideau d'eau entre la toiture et cette tour nord.
Il y a eu un débriefing depuis, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce débriefing ? Que vous ont dit les hommes ? Qu'est-ce qu'il en ressort de cette expérience, évidemment, totalement hors du commun ?
Oui, c'est une adresse, en tout cas, où on n'aimerait pas se présenter, où on aurait aimé ne jamais arriver pour feu. C'est vrai pour tous les édifices comme Notre-Dame, mais se présenter face à cette cathédrale qui menace ruine, cette cathédrale en feu, c'est dur, c'est très émouvant pour des pompiers. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ce modèle résilient des pompiers de Paris, avec les multiples casernes qui correspondent à un maillage étroit, ont permis de réagir en conséquence et d'envoyer assez rapidement des moyens en qualité et en quantité pour contenir ce feu. L'entraînement professionnel quotidien que les pompiers de Paris suivent se trouve légitimé, se trouve justifié.
Les nombreux hommages, Gabriel Plus, depuis hier, les gens qui applaudissent quand les pompiers approchent, les hommages du Premier ministre, là, il y a quelques minutes, le pape qui salue les sauveteurs, c'est un surcroît d'énergie pour vous ?
Cette bienveillance, on la connaît au quotidien, sur les 1500 interventions quotidiennes, mais effectivement, c'est encourageant. C'est absolument beau de voir cette solidarité qui s'exprime, non seulement pour les pompiers, mais pour l'ensemble des corps d'État qui sont engagés pour sauver cette belle dame. C'est la cohésion de l'État dans ces moments difficiles, dans ces moments dramatiques qui permettent de sauver un tel édifice. Oui, c'est bienveillant, c'est émouvant d'être soutenu ainsi par nos concitoyens. C'est une unité qui partage son sens de l'engagement et c'est tout simplement aussi l'occasion pour nous de redire que le sens de notre engagement, le, le fait de pouvoir s'engager au profit des autres donne du sens à notre vie et nous rend heureux. Mmh. Et ça, je pense que c'est aussi à nous de dire cette chose-là, ce qui nous anime.
Merci.
On sauve les personnes, c'est notre mission. Mmh. On a sauvegardé des biens, on a sauvegardé Notre-Dame cette fois-ci. Et ma foi,
c'est pas mal. Merci beaucoup Gabriel Plus d'avoir répondu aux questions de France Inter. Je vous laisse à vos activités. J'imagine que la journée va être encore extrêmement dense. Alors depuis hier soir, il y a un débat supplémentaire. Reconstruire la cathédrale en 5 ans, c'est ce que souhaite le président de la République à locution hier soir. Est-ce possible ? Comment est-ce possible, si oui, de nouvelles pièces au débat sur France Inter aujourd'hui. L'architecte Jean-Michel Villemotte était ce matin l'invité de France Inter, de la matinale de Nicolas Demorand et Alexandra Ben Saïd. Voici ce qu'il dit.
On vit notre époque, c'est très intéressant de dire on a une époque avec des nouveaux moyens, des nouvelles techniques, on n'est pas obligé de réutiliser le plomb qui est un matériau très très lourd, on n'est pas obligé de réutiliser le chêne, sachant aussi que cette charpente, elle est par-dessus une voûte et qu'elle ne sera pas visible de l'intérieur, si vous voulez. Je vous donne deux exemples. Lorsque Chartres a brûlé, on a refait la structure en fonte et la couverture, on l'a refait en cuivre. Lorsque Metz a brûlé, on a fait la structure avec un système de poutres, ce qu'on appelle la poutre Pontenceau, qui est la poutre avec laquelle on a construit la gare du Nord. Et la structure, les couvertures sont en cuivre. La structure, elle serait, si elle est métallique, elle va peser déjà 2 fois moins lourd que s'il est en bois. En plus, elle peut être préparée en atelier et arriver et directement monter sur place. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser les matériaux de notre époque. C'est très très important. Aujourd'hui, si en plus vous mettez une couverture en titane, vous allez avoir une légèreté et vous n'êtes pas obligé d'avoir des masses de structures pour refaire cette charpente.
Et ça ne brûle pas le titane?
Ah non, le titane c'est un matériau exceptionnel si vous voulez.
Alors, autre pièce au débat. La cathédrale de Metz. Voyons ce qui s'était passé. Il y avait eu un incendie au 19e siècle, Victorien Villaume. On avait tout reconstruit différemment.
En mai 1877, un incendie frappe la cathédrale de Metz.
À la suite d'un feu d'artifice tiré pour la venue de l'empereur Guillaume Ier.
Guillaume Lefebvre est architecte des bâtiments de France en Moselle.
La cathédrale de Metz, construite en bois et couverte d'ardoises, prend feu.
La toiture de la cathédrale de Metz est totalement détruite. Il faut donc la refaire soit de la même façon, soit d'une autre manière. Et c'est l'option B qui est choisie.
Le parti pris de l'architecte a été de proposer une charpente incombustible, une charpente métallique.
Avec cette nouvelle toiture, les risques d'incendie sont donc clairement limités, la sécurité est revue à la hausse. Mais l'architecte décide aussi de changer l'esthétique de la cathédrale de Metz.
Il y a toute une réflexion sur la silhouette de la cathédrale, et notamment en considérant que la cathédrale de Metz et sa couverture est un peu trop basse, et qu'une cathédrale gothique a plutôt une couverture haute. Et donc, il va proposer de surélever la couverture pour lui donner un peu plus d'emphase.
Les architectes qui s'occupent de la cathédrale de Paris auront donc plusieurs options. Et d'après Guillaume Lefebvre, passé la tristesse, le projet de reconstruction sera passionnant.
Et une image pour conclure ce long dossier consacré à Notre-Dame, cette image à laquelle les riverains, les passants, les spectateurs à la télévision ne sont sans doute pas encore habitués. Moins de 2 jours après l'incendie, cette cathédrale mutilée. Claude est bouquiniste depuis 30 ans, au pied de Notre-Dame. Son paysage quotidien a changé à tout jamais.
Tous les jours, quand je venais ici, je regardais Notre-Dame et avec autant de plaisir. Ça ne sera plus pareil. Il y avait une flèche extraordinaire, il y avait cette toiture, il y a 4 horloges sur les toitures, il y avait... il n'y a plus tout ça. On lui a coupé la tête. Il faut s'habituer à autre chose, à une autre vision, quoi. Bon, pas facile. Il en reste encore, mais bon, elle est bien amochée.
Vous êtes là depuis 30 ans. Est-ce que vous avez espoir de la revoir un jour, Notre-Dame?
Non, je suis trop vieux.
18h50, ce soir, à l'heure du début de l'incendie de lundi, les cloches de toutes les cathédrales de France résonneront. Notre-Dame, on en reparle côté histoire avec Jean Lebrun. Il sera question aujourd'hui entre 13h30 et 14h de la cathédrale version 19e, celle de Viollet-le-Duc.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Certains militants écologistes sont-ils en train de se radicaliser face à ce qu'ils considèrent comme une inertie des pouvoirs publics dans la lutte contre le changement climatique? En France, 14 associations, dont les Amis de la Terre et Greenpeace, prônent désormais la désobéissance civile pour bloquer la République des pollueurs à partir de vendredi prochain. En Grande-Bretagne, cela a déjà commencé. Antoine Gignot, le mouvement s'appelle Extinction Rebellion. Il veut bloquer la circulation à des carrefours importants de la ville ce matin à Marble Arch.
Les animaux
Ambiance plateau du Larzac ou colline écossaise sous l'arc de triomphe de Marble Arch, avec des tentes, des barrières, des guitares. Ils sont quelques centaines à se relayer comme Adrian Porter pour bloquer les accès du centre de Londres.
Waterloo
est encore bloqué, Oxford Circus aussi, dit-il. Et puis il y a Marble Arch où nous nous trouvons, et puis la place du Parlement. On ne veut pas causer de problème aux gens, mais c'est tellement difficile d'attirer l'attention si on ne bloque rien. On a quand même beaucoup de soutien avec des gens, des immeubles à côté qui nous apportent du café. Des gens comme Daniel Lee, venu spontanément ce matin grossir les rangs des manifestants face à l'urgence climatique. Moi j'ai de l'asthme, dit-il, et un problème cardiaque. Ma mère en est morte, ma grand-mère est morte de maladie chronique, et je connais une petite fille à Londres qui est morte d'une crise d'asthme il y a 4 semaines. On laisse les enfants mourir. Ce gouvernement devrait avoir honte, et Theresa May aussi. Daniel Lee prône comme première urgence le rétablissement de lignes de tram dans Londres. Les seuils de pollution annuelle dangereux ont été dépassés cette année dès la fin du mois de janvier. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
En Europe encore, l'Allemagne n'est plus le moteur économique du continent. Prévision de croissance pour cette année divisée par 2 par le gouvernement. 0,5% de prévision au lieu d'1%. Nous allons maintenant dans un pays hors du commun. S'y tiennent des élections forcément hors du commun. En Indonésie, les bureaux de vote ont fermé ce matin. Il y avait ces dernières heures 245 000 candidats à des élections présidentielles, législatives et locales. Alors Indonésie, la petite fiche encyclopédique, 17 000 îles réparties de l'océan Indien à l'océan Pacifique, 4e pays le plus peuplé au monde, c'est la plus importante population musulmane. La présidentielle oppose essentiellement le sortant Joko Widodo, musulman modéré, à l'ancien général Subianto, qui n'était nettement plus radical. Et un événement qui s'est déroulé il y a plus de 2 ans anime toujours ou animait la campagne. C'est l'histoire de l'ex-gouverneur chrétien de Jakarta qui s'appelle Ahok, qui est accusé de blasphème. On l'aura compris, Joël Brunner, l'identité musulmane est au cœur de ces élections.
L'archipel indonésien compte près de 90% de fidèles de l'islam parmi ses quelques 265 millions d'habitants. La Nahdlatul Ulama y est la plus large organisation islamique et Helmi Faisal Zaini, un ancien ministre, en est son secrétaire général à Jakarta.
En Indonésie, l'identité religieuse est une variable politique qui se renforce à l'heure actuelle. Ce mouvement s'est accentué après les manifestations contre l'ex-gouverneur de Jakarta. Depuis cet événement, l'identité religieuse est de plus en plus utilisée comme un ressort politique. Cela crée un mouvement de cristallisation de l'identité musulmane autour de l'affaire Ahok. Et cela a aussi engendré un sentiment d'opposition au président lui-même.
Fin 2016, en effet, des manifestations géantes au cœur de la capitale, portées en particulier par les partis islamistes, participent à faire tomber l'ex-gouverneur chrétien de Jakarta, surnommé Ahok, que ces groupes accusent de blasphème. Ahok purgera 2 ans de prison. Pour faire face à ce regain de religiosité, le président sortant Joko Widodo, par ailleurs proche d'Ahok, s'est allié dans l'espoir de se faire réélire à un vice-président musulman très conservateur, Maruf Amin. Objectif, s'en servir comme d'un bouclier pour contrer les attaques des islamistes qui l'accusent de tiédeur religieuse. Quitte à offrir aux religieux un trône au sommet de l'État. Jakarta, Joël Brunner, France Inter.
Et selon les premières estimations, le président sortant plus modéré que son principal adversaire est donné gagnant. Allez, ce qui suit va peut-être vous faire sourire, mais cela raconte surtout à quel point le trafic de drogue est enkysté dans certains quartiers en France. Tellement de dealers sur le marché qu'il faut se distinguer pour accrocher le chaland. Alors à Grenoble, les vendeurs viennent d'organiser une tombola pour récompenser les plus fidèles. Véronique Pueyo, c'est le dernier outil marketing en date des dealers parmi d'autres et cela révèle aussi un vrai sentiment d'impunité.
Les dealers du quartier Mistral font décidément preuve de beaucoup d'imagination pour séduire leur clientèle. Ainsi, ils n'ont pas hésité à imprimer des sacs en plastique avec, écrit dessus, Mistral, sur fond de feuilles de cannabis. Un sac offert bien sûr à leurs acheteurs. Récemment, c'est carrément une PlayStation qui était à gagner dans le cadre d'une tombola. Sur Snapchat, cette application gratuite de partage de photos et de vidéos, on pouvait lire, avec en prime quelques belles fautes d'orthographe, la personne possédant le même ticket est priée de venir chercher son cadeau. Et le tirage au sort a eu lieu il y a quelques jours, en direct, sur Snapchat, toujours. Un homme ganté et masqué a procédé au tirage au sort. L'histoire ne dit pas si l'heureux gagnant est venu chercher sa console. On se souvient aussi qu'en 2014, à l'endroit d'un point de vente, une affichette avait été apposée en toute décontraction, sur laquelle on pouvait lire « Fermeture exceptionnelle, merci de votre compréhension ».
Quand Le Sport raconte la société et l'actualité internationale, samedi dernier, elle a gagné le premier match officiel de boxe disputé par une Iranienne. C'était à Royan, en France, activité formellement interdite aux femmes en Iran. Eh bien, cette boxeuse, Sadaf Kadem, et son entraîneur ne rentreront pas dans leur pays. Ils se sentent menacés. Le Conseil Cinéma, comme chaque mercredi, une plongée dans l'enfer de la drogue aux Philippines. Au cinéma, cette semaine, c'est donc ce film que nous avons choisi, Alpha, The Right to Kill, nouvel opus du réalisateur Brillante Mendoza, récompensé d'un prix du jury il y a 10 jours au Festival du film policier de Beaune. C'est aujourd'hui sur les écrans. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
C'est votre choix. Ceux qui ont vu le précédent film de Brillante Mendoza, Marosa, reconnaîtront les thèmes de prédilection du cinéaste, des histoires de drogue, de familles pauvres, de policiers corrompus. C'est là dans les bas-fonds de Manille. Et c'est filmé à la manière quasiment d'un documentaire.
Voilà, comme dans ces reportages américains, la télévision où l'on suit des policiers en train de procéder à des arrestations musclées. Eh bien, sauf qu'ici, c'est de la fiction. Même si le propos est très ancré dans le quotidien des Philippins et filmé de manière très réaliste, au plus près des corrompus, des trafiquants, des petites gens que le réalisateur suit partout, caméra à l'épaule, avec énormément d'acteurs non professionnels et des policiers parfois qui jouent leur propre rôle.
Alors, la lutte contre la drogue, bien sûr, sujet important. Brillante Mendoza a soutenu la candidature du président Duarte qui promettait de faire le ménage. Mais que l'on ne s'y trompe pas, c'est un film aujourd'hui pour dénoncer.
Oui, dénoncer les violences, dénoncer les actions de la police qui utilise depuis 3 ans la manière forte. Les chiffres sont assez édifiants. 7000 personnes tuées lors d'interventions de la police, ce sont les chiffres officiels. Largement dénoncés d'ailleurs par les ONG qui estiment un nombre de victimes 2 à 3 fois supérieur. Brillante Mendoza, c'est vrai, avait soutenu en 2016 la candidature du président Duarte qui promettait de débarrasser le pays du fléau de la drogue. Il s'était donné 6 mois. 3 ans plus tard, les corrompus sont toujours là. Les familles, souvent très pauvres, sont de plus en plus acculées, sans aucun moyen de s'en sortir.
Et dans le film, un souci de réalisme énorme. Le cinéaste a construit tout son scénario à partir de témoignages, d'entretiens avec des personnes impliquées à un niveau ou un autre dans le trafic de drogue aux Philippines.
Voilà, une sorte de manuel de la lutte anti-drogue pour les nuls, on pourrait dire, qui prendrait en compte tous les points de vue à travers l'histoire d'un flic ripou et de son indic. Une lutte sanglante dans des appartements, dans les rues, sur les toits, partout, toujours à mi-chemin entre le documentaire et le polar. On suit dans ce film toutes les descentes de police comme si on y était, avec de longs plans séquences, un immense souci du détail. Le film a remporté le prix du jury à Beaune et c'est mérité.
Et il s'appelle Alpha, The Right to Kill, Brillante Mendoza, au cinéma cette semaine. Mbappé et ses coéquipiers du PSG seront-ils champions de France de football ce soir? Oui, s'ils gagnent à Nantes. Le PSG, roi en France, faute de l'être en Europe. Ce soir encore, les derniers quarts de finale de la Ligue des champions de football. 3 équipes anglaises, Manchester City, Tottenham, 1-0 pour Tottenham à l'aller, et Porto, Liverpool, 2-0 pour Liverpool à l'aller. Hier, Barcelone a éliminé Manchester United et l'Ajax, surprise, a éliminé la Juventus de Turin. Et puis, le foot qui donne le sourire. En bref, cette information que nous donnent nos confrères de France Bleu Azur. Nous sommes mi-avril, soit 9 mois après la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Eh bien, nos confrères de France Bleu Azur ont repéré un petit baby-boom dans certaines maternités et pas mal de nouveau-nés qui s'appellent Kylian.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Sébastien Léas.
Les températures repartent à la hausse et vont rester largement au-dessus des normales de saison jusqu'à la semaine prochaine. Cet après-midi, c'est dans le sud-ouest que les maximales sont le plus élevées, grimpant entre 19 et 26 degrés. Ailleurs, prévoyez 15 à 23 degrés. Cette douceur est bien ensoleillée aujourd'hui. Au nord de la Seine et sur le Grand Est, les éclaircies s'affirment, mais restent plus timides entre la Somme, les Ardennes et le Nord-Pas-de-Calais. Sur le Languedoc-Roussillon, les entrées maritimes se morcellent, quelques nuages bourgeonnent sur le sud des Alpes et le relief de la Corse, et des nuages élevés débordent sur les régions de l'ouest, entre la Bretagne, la Normandie, la Touraine, le Limousin, le Midi-Toulousain et l'Aquitaine. Partout ailleurs, le ciel reste quasiment tout bleu. Cet après-midi, le vent est sensible sur les plages de l'ouest et le vent d'Autan souffle encore plus fort avec des rafales soufflant jusqu'à 80 km/h sur les hauteurs du Tarn.